www.libradio.org, la radio comme en famille. Deviens meilleur, rejoins la gang, il y siège des trésors.
Mmh. Nous voilà donc de retour ici depuis, dans les conditions du direct depuis La Ville est à vous à Saint-Jean, dans la périphérie immédiate de Genève, en compagnie de nos trois derniers invités de la journée. Merci à vous d'être parmi nous, d'être là, Loïc, Manu et Aline. Vous êtes tous les trois engagés dans l'organisation du festival Octopod, festival qui aura donc lieu les 24 et 25 août 2018. C'est un open air gratuit qui se trouve à Mérin, qui se situe à Mérin. D'ores et déjà, on va annoncer l'adresse du site internet pour les personnes qui ensuite iront glaner des informations. C'est www.octopod.ch. Alors, je sais que la programmation a été divulguée il y a de cela peu, en grande pompe. On va bien entendu parler de ça. Mais avant tout, on va quand même également parler un petit peu de l'origine, des valeurs de ce festival qui se situe donc à Mérin. Et pour commencer, eh bien, je pense qu'il vaut mieux qu'on fasse une sorte de petit tour de table dans lequel eh bien, vous vous présenteriez à l'aune du festival. Qu'est-ce que vous y faites? Quel est votre rôle au sein de ce festival? Qui veut commencer? Allez, Aline, on y va.
Salut. Alors, moi, au festival, j'accueille les bénévoles, mais durant toute l'année, j'accompagne en tant que secrétaire de l'association le président pour les demandes de subventions. Je m'occupe un peu de l'administration du site internet et en collaboration avec notre responsable communication, je discute un peu des orientations de notre com et ce genre de choses. Voilà.
Merci, Aline. Manu, alors?
Bah, enchanté d'être là, enfin, c'est super cool.
Ravi également.
Moi, pour le festival, je fais la programmation pendant l'année. Mmh. Et puis après, sur l'événement et un tout petit peu avant l'événement, je fais de la direction technique et de la coordination générale.
Ok.
Bon, voilà.
Qu'entends-tu par direction technique?
Direction technique, c'est le lien entre les fiches techniques qu'on reçoit des artistes et les conditions qu'on peut proposer ou pas pour accueillir ces artistes avec leurs demandes spécifiques.
Fiches techniques, backline, tout
exactement.
Ça, tout ça. D'accord.
Faire en sorte que ça roule, quoi.
Ouais, super. Loïc.
Ouais, bah, à mon tour, je vais juste remercier encore pour l'invitation. Ouais. On est vraiment super content d'être là. Alors moi, je suis le président de l'association Subsession, donc c'est l'association qui organise l'Octopod Festival. Et dans le cadre du festival, bah, je m'occupe de différentes choses. Mon travail est un peu étalé sur toute l'année.
D'accord.
C'est-à-dire, je m'occupe avec Aline, comme elle le disait juste avant, de tout ce qui est subvention, rédiger les dossiers, voilà, obtenir les financements. Je m'occupe aussi de tout ce qui est démarche administrative, tout ce qui est démarche légale pour que le festival puisse avoir lieu. Et notamment aussi de tout ce qui est contrat avec les artistes. Et voilà, du coup, beaucoup de tout ce qui est en fait qui relève de l'administratif, du légal, des autorisations, des relations avec les autorités, avec la commune de Mérin, avec laquelle on collabore depuis maintenant. Le début du festival.
Ces questions vont de toute façon arriver à un moment donné, tu sais. Alors justement, c'est la combienième édition du festival qui aura cours le 24 et 25 août de cette année?
Alors ça va être la 7e édition.
7e édition déjà, d'accord. Voilà. Est-ce que l'équipe de départ est encore plus ou moins là ou est-ce qu'elle a vraiment beaucoup changé depuis les origines?
Alors il y a eu plusieurs changements, je pense, de l'équipe original, en fait, originel au début, on est plus que 5, il me semble. Actuellement, on est 11 dans l'association. Et du coup, on est plus que 5, mais voilà, au fil des années, voilà, il y a des gens qui, par leur parcours de vie, ont décidé d'arrêter, d'autres qui se sont rejoints. Donc, il y a eu des changements, mais tout s'est fait voilà, progressivement.
Et... D'accord. Ça veut dire que vous n'avez pas de problème de renouvellement d'équipe, parce que c'est des fois le problème. Mmh. C'est quand une équipe de base porte le truc pendant quelques années, tout le coup, on se dit, ouais, mais nous, on n'en peut plus. Et puis on n'a pas fait gaffe et du coup il y a un gap à un moment donné où voilà il manque. Là, de votre côté.
En fait il y a un beau lien entre les bénévoles qui viennent participer aux éditions et puis qui au fil des éditions ont envie de s'impliquer un peu plus dans l'événement et du coup font généralement une demande et bah, cette année on a 3 nouvelles personnes qui étaient bénévoles qui ont rejoint le comité.
D'accord. Alors quand vous dites comité, c'est-à-dire que est-ce que au comité de succession correspondent les fonctions précises qui ont cours pour l'organisation du festival? Ce que je veux dire, c'est que quand tu dis 11 personnes, il y a 11 secteurs d'activité ou c'est fait comment?
En fait, il n'y a pas vraiment 11 secteurs d'activité définis. Il y a surtout des gens qui ont envie de se mettre ensemble pour organiser l'événement. Et après, il y a un certain nombre de tâches à se répartir. Et les gens qui ont envie de prendre certains rôles, prendre certaines tâches, eh ben, le prennent. Puis on fait en sorte que toutes les tâches soient réparties.
D'accord.
Et du coup, il y a des gens qui sont beaucoup plus impliqués pendant l'année, d'autres beaucoup plus sur l'événement. Et puis les choses se font comme ça au fil des années avec les envies de chacun. Et c'est surtout ça qui est important.
Exactement, c'est super ça de pouvoir justement proposer que les gens puissent par affinité se réunir et œuvrer justement avec ce plaisir, finalement accompagner ce plaisir. Quels sont-ils ces postes clés dont vous avez besoin au sein de l'Octopod Festival? J'ai compris que là, il y en a au moins 3 qui sont représentés. Y en a-t-il d'autres et lesquels sont-ils?
C'est sympa. Y a, sur l'événement, il y a un rôle très important, c'est les responsables logistiques et sécurité. C'est ceux qui vont diriger un peu les équipes de bénévoles en fonction du travail qu'il y a à faire sur place, mais aussi coordonner toutes les équipes de sécurité, les samaritains, les pompiers, les services d'ordre, etc. Après, bah, y a effectivement le rôle de Loïc en tant que président, le rôle administratif aussi un peu. Il y a Aline avec l'accueil des bénévoles, le stand d'information aussi pour les festivaliers. Après il y a le graphisme et toute la com. Là on a Noé Ferret que tu avais vu l'année passée, qui n'a pas pu venir aujourd'hui.
D'accord, mais qui fait encore partie de...
Ah oui,
de
oui, tout à fait. Ah, bah, c'est encore lui qui a fait le flyer.
C'est un des cinq
originels
dont on parlait.
Avant. Avec le chouette logo qu'on avait, dont on avait parlé là.
Et puis après il y a aussi l'accueil artiste qui a une très grosse partie du boulot quand même. Qu'est-ce que j'oublie encore?
Le bar.
Ah, le bar.
C'est très important le bar.
Oui, évidemment. Évidemment.
Le bar, le merchandising, donc ça c'est aussi Noé qui s'en occupe. Mmh. Et puis il y a aussi les petites fées de la zone info, de la zone bénévole qui s'occupent de bien accueillir nos bénévoles pendant les 2 jours de festival.
D'accord. Quels sont les coûts les plus important pour un festival comme ça? Est-ce que c'est plus le côté autorisation qui coûte? Est-ce que c'est plus le côté matériel, backline, tout ça? Est-ce que c'est plus les cachets des artistes, le catering? Qu'est-ce qui coûte le plus? Qu'est-ce qui est le plus compliqué à assumer?
Je dirais que c'est pas qu'est-ce qui est le plus compliqué à assumer, c'est où est-ce qu'on a envie de mettre des priorités dans un budget. Parce qu'un événement, on peut le faire de différentes manières. Nous, on a fait certains choix, dont je pense que Loïc parlera après. Chez nous, on a fait le choix d'essayer de proposer une programmation qui est assez artistiquement assez imposante.
Ah, carrément, ouais.
D'essayer d'offrir la gratuité pour ces artistes-là. Ce qui a un coût derrière pour nous, c'est celui de pouvoir accueillir ces artistes. Et je dirais que du coup, l'infrastructure que nécessitent les artistes de cette envergure a un coût. Du coup, c'est là-dedans qu'on a choisi de mettre notre budget. Et après, il y a un peu des frais fixes qui vont avec la taille du festival, qui est celle de l'infrastructure pour accueillir les festivaliers. Je dirais que c'est les deux principaux axes où il y a de l'argent qui est dépensé.
Et là-dedans, comment est-ce que vous envisagez vos partenariats? Si j'ai bien compris, la commune est quand même présente, ou en tout cas, elle vous appuie. Et puis, y a-t-il d'autres partenaires privilégiés avec lesquels vous œuvrez pour que ça marche?
Oui, bah, totalement. En fait, pouvoir faire un festival de cette envergure et ouvert, gratuit, qui sont une des valeurs du festival, mais on y reviendra après, ça a un coût. Et en fait, on ne pourrait jamais le faire en fait, si on n'avait pas chaque année des sponsors, des partenaires qui nous donnent des subventions et qui nous aident juste à rendre ce festival possible. Et c'est vrai que c'est vraiment, si on les avait pas, et chaque année on peut retrouver chacun de ces sponsors sur nos supports de com, sur le site internet, si on les avait pas, on pourrait tout simplement pas faire le festival.
Ouais. 7e édition, vous avez dit, on peut dire que Amérin, c'est un festival qui est installé et qui est là pour a priori pour toujours.
Ou bien C'est pas évident à répondre à cette question.
C'était une fausse question. Enfin, l'idée, c'était de vous demander, en 7 ans, certainement qu'il y a eu une évolution. Est-ce que vous avez trouvé une vitesse de croisière? Est-ce que vous vous réinterrogez chaque année en disant « Oui, mais le site, on va l'organiser peut-être un petit peu différemment. On va effectivement prioriser cette fois-ci ça plutôt que ça. » Enfin voilà, est-ce que vous avez comme ça tout au long des éditions, des développements, des évolutions? Et également, le deuxième volet de la question, est-ce qu'à l'aune de la prochaine décennie, ou peut-être moins, est-ce que vous avez d'ores et déjà des aspirations, des choses vers lesquelles vous avez envie d'aller?
Je peux répondre sur la question de de la continuation chaque année. Chaque année, quand on termine une édition, on se pose la question, c'est notre assos, ok, on relance la machine, est-ce qu'on est, on repart pour l'aventure, est-ce qu'on est motivé, parce que on n'est jamais sûr, en fait, surtout sur le plan financier, on va dire, on n'est jamais sûr, les sponsors sont jamais acquis. Chaque année, on se repose la question de qu'est-ce qu'on met dans les dossiers de subvention, qu'est-ce qu'on peut améliorer, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toujours améliorer la qualité du festival. Et donc, chaque année, on n'est jamais sûr que les choses sur le plan financier vont être possibles. Et du coup, voilà, à chaque fois, on est motivé pour repartir. Mais...
Parce que juste un petit détail, que voilà, les subventions, ce sont des octrois que vous obtenez chaque année, que vous devez... Voilà, il n'y a pas quelque chose qui pourrait être pluriannuel en disant, bah voilà, maintenant on peut ajuster le truc, mais on sait que vous avez quelque chose. Non,
actuellement,
c'est pas comme ça que ça marche.
Actuellement, c'est pas le cas.
D'accord.
Donc, chaque année, c'est de nouveau une discussion, et c'est vrai que c'est quelque chose qui nous demande beaucoup d'énergie, mais voilà, jusqu'à maintenant, on est super motivé pour faire ça.
Et mais à chaque année, vous n'avez pas la garantie. Non. Ça veut dire que si ça se trouve, dernière minute, il se peut que ce soit niet.
Et l'autre chose liée à ça, c'est que sur le plan du financement, on a effectivement ces sponsors, et on a aussi, on compte beaucoup sur la recette du bar. Et c'est vrai qu'en fait, venir consommer au bar plutôt que d'amener ses propres consommations, parce que je rappelle que c'est gratuit et ouvert.
Tout à fait.
Donc on compte beaucoup en fait sur le bar. Si un festival vient consommer au bar. C'est une forme de soutien pour nous dont on a besoin, et en fait chaque année on ne sait jamais jusqu'à la fin du festival si on va rentrer, si les gens ont joué le jeu, si ils sont consommés à notre bar, et on sait jamais si on va rentrer dans nos frais.
Alors voilà, ça il faut le dire haut et clair, en tout cas ici à la radio, il faut consommer plutôt que d'amener ses boissons, parce que c'est une forme, comme tu le dis, de soutien extrêmement centrale au festival, à l'Octopod Festival.
Ce qu'on peut se dire, c'est qu'on peut faire les deux, on peut apporter ses boissons, mais on peut aussi consommer au bar. Et ce qu'on fait aussi pour que ce soit intéressant de consommer au bar, il y a des prix intéressants, mais il y a aussi des produits intéressants, locaux. Une bière spécialement faite par la brasserie de la pièce qui s'appelle L'Écume, et c'est une édition spéciale Octopod.
Wow, voilà. Excellent, excellent. Ok, et concernant les aspirations, est-ce que justement vous vous voyez croître, décroître, parce que c'est pas décroître, c'est pas bien non plus, hein. Ajuster les choses concernant également le site du festival, est-ce que voilà
tout ça. Alors la question de l'implantation sur le site du festival, chaque année on se demande qu'est-ce qu'on va pouvoir améliorer, qu'est-ce qui était les défauts l'année passée et sur quelle base on va pouvoir repartir. Après, sur les aspirations de taille du festival, on est plutôt dans l'optique d'essayer d'arriver à faire la même chose maintenant. Sur plusieurs années, d'essayer de proposer le même festival au fur des années. C'est-à-dire garder la même taille, rester à peu près sur le même site, et pouvoir proposer la même offre chaque année, ce qui est déjà un défi en soi pour nous. Alors c'est lié aussi effectivement à la question de subvention, comme disait Loïc, mais aussi aux festivaliers qui vont faire en sorte que le festival continue ou pas, simplement en venant. C'est clair que si on fait une édition comme ça et qu'il y a moins de festivaliers, nous on va avoir de la peine à continuer à faire l'événement. Et du coup, on essaie de continuer à proposer la même chose pour l'instant. Il n'y a pas de... Je crois pas qu'on se projette à 10 ans ou 15 ans ou 20 ans. Je pense que du moment qu'on a du plaisir à le faire, on va continuer à le faire. Et puis que le jour où on a plus de plaisir, on se posera d'autres questions.
C'est bien, c'est-à-dire qu'il y a en même temps une manière de... quand même d'anticiper les choses et tout, et en même temps une manière de vivre les choses au jour le jour. Je trouve ça bien d'arriver à faire converger ces choses-là. Pour vous, ça c'est une question un petit peu comme ça. Quels sont très personnellement les meilleurs moments du festival? Est-ce que c'est en amont, parce que c'est là où des choses se jouent, dans l'ombre, mais il y a des choses extrêmement importantes qui se jouent là? Est-ce que c'est pendant, parce que pendant, on est dans le truc, quoi? Ou est-ce que c'est après, parce qu'après on se dit « waouh, on l'a fait, quoi ». Est-ce qu'il y a un moment préféré comme ça que vous avez chacun de vous, ou c'est un peu de tout, hein, je comprends, mais parce qu'il y a des moments où c'est vrai, hein, à la fin du festival on se dit « c'était incroyable », même si on a eu des galères, il a plu, il a je sais pas quoi, mais on se dit quand même « on l'a fait, c'était bon, quoi ». Alors voilà.
Personnellement, moi j'aime pas la fin de festival parce que je suis triste que ce soit terminé.
Ouais.
J'adore les quelques jours avant, les soirées où on fait des débriefings pendant le montage et on se dit waouh, ça prend forme. Et ça, c'est aussi intéressant. Et mon petit moment chouchou, c'est vers les 22h, 23h, les vendredis et samedis soirs, où en fait, d'un coup, on lève la tête, on regarde et on se rend compte qu'il y a tellement de monde sur le site. Ça, c'est assez agréable.
C'est pire. Ok,
moi, il y a un autre moment qui me... où je me sens très bien, je pense que Loïc va me rejoindre là-dessus, c'est le moment où la programmation est dévoilée. Parce qu'en fait, c'est le premier moment où on peut avoir un retour des gens sur le travail qui a été fait toute l'année.
Absolument.
Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a pour la première fois l'impression de bosser pour des gens, pour rendre des gens heureux.
Ok.
Et ouais, moi, je trouve un très bon moment et toute la semaine du festival, en fait.
Le moment.
Ouais, et je suis d'accord avec Aline, quand c'est fini, c'est triste.
Ah bah ouais. Mais les moments tristes, c'est pas automatiquement des mauvais moments.
Ah non, pas forcément. Tout. Mais ouais, il y a un relâchement de tout ce qu'on a fait pendant la semaine.
Ah bah, sans blague. Oui, Loïc, pardon. Et à ton tour, quels sont les moments, si tu en as?
Oui, alors je dirais avant le festival, c'est le moment que vient de décrire Manu. Mm. C'est le moment de la sortie de la prog, et c'est vrai que, entre guillemets, on bosse dans l'ombre en fait toute l'année, et c'est pas que c'est quelque chose de mauvais, mais c'est vrai que quand il y a ce premier moment de sortie de la prog et que les gens voient le fruit de notre travail, entre guillemets, bah, c'est vraiment un grand moment, hyper, on se sent très bien. Et ouais, quand les gens commentent, aiment sur Facebook par exemple, ou nous font des retours après, qu'on les croise dans des soirées, c'est juste de l'or, quoi, c'est marrant.
Ok.
Et voilà.
Ouais, très bien, merci beaucoup, Loïc. Aline, j'ai une question un peu plus pour toi quand même, puisque tu t'occupes. En toute bienveillance, hein, de toute façon. Voilà, le dévoilement de la programmation. Ça, c'est quelque chose. D'habitude, chaque année, vous faites un petit truc autour, un petit machin spécial, ou c'est venu assez récemment de dire, tiens, on va profiter de faire, presque une conférence de presse, ou... Enfin, cette idée-là est-elle récente et comment s'est-elle manifestée et quelle forme prend-elle?
Je crois qu'avec l'évolution du festival, il y a eu une évolution de la com, et on s'est rendu compte que le meilleur moyen en fait de dévoiler la prog, c'était déjà d'un coup, parce qu'avant on hésitait, est-ce qu'on révélait jour après jour la programmation, puis en fait on a envie que ça explose et que ça fasse un certain effet, et pour ça on s'est dit bah voilà, on dévoile en une fois. On ne fait pas pour l'instant de conférence de presse, je crois qu'on ne se sent pas encore très à l'aise avec ça, et finalement je crois qu'on s'adresse aux gens qui aiment le festival, puis des fois la presse voilà, voit passer la programmation, ça plaît, on peut aller faire des interviews, mais vraiment on s'adresse au public. Et c'est vrai que Facebook finalement, avec tous les défauts que ça a à d'autres moments, c'est quand même un média, un canal qui nous permet de vraiment faire claquer le dévoilement de la programmation. D'accord. Et ça c'est vraiment, cette année on a pas mal travaillé grâce à Manon qui s'est occupée de l'Instagram et du Facebook, de faire des petits teasings, de se dire ah dans un mois, ah dans 7 jours, et en fait nous ça nous excitait aussi énormément de devoir attendre parce qu'on avait la programmation mais on devait se taire.
Ça pourrait devenir un jour presque un événement, un petit événement qui soit matériel, enfin je veux dire...
Ce serait super.
D'accord, donc ça c'est quelque chose qui t'habite. Voyons. Ok, dites-moi, concernant les publics de l'Octopod Festival, 7 ans ça veut dire que des gens ont vieilli, de nouvelles générations arrivent. Après, en deuxième partie, on va parler de la prog stricto sensus, hein, mais est-ce que vous avez constaté une évolution du public, et comment est-ce que ça vous parle, cette évolution du public?
Alors, je dirais le premier indice de l'évolution du public qui est le plus visible, en fait, c'est l'affluence, le nombre.
Mm-hmm, ouais.
Et c'est vrai que quand on a fait la première édition, en 2012, c'était, il me semble. On a eu quoi, peut-être 1000 personnes.
C'était déjà 2 jours ou...
C'était 2 jours. D'accord. On a eu 1000 personnes, il me semble, sur l'ensemble.
Ce qui est déjà environ. pas mal, hein, franchement.
Et en fait, ça a augmenté chaque année. L'année passée, pour la 6e édition, on a eu 15 000 personnes sur les 2 soirs.
Sur 15 000 personnes sur les 2 soirs,
ouais.
Ça c'est un problème ou c'est bien? Parce que je me dis que 15 000 ça veut dire qu'il peut y avoir... Non mais tu vois, ouais, quelqu'un qui est pas bien, Est-ce que là, du coup, on doit implémenter le problème de sécurité, là, j'imagine qu'il apparaît, le problème de santé et de sécurité, peut-être qu'il est autrement plus important ?
Oui, tu peux répondre.
Toutes les mesures sécuritaires et sanitaires, du coup, ont augmenté avec l'affluence du public, donc c'est des choses qu'on a dû adapter au nombre de personnes qui venaient.
Typiquement, y a-t-il deux, trois éléments très concrets qui ont vraiment dû changer, que tu pourrais nous dire comme ça ? Est-ce que, par exemple, vous avez dû faire un point samaritain ?
Il y a toujours eu des Samaritains. Ce qui a augmenté, c'est le nombre de personnel sur place.
D'accord.
Et puis leur infrastructure qui a augmenté aussi. Donc ils peuvent accueillir beaucoup plus de personnes.
Ok. Voilà. Parce que je me demandais si en termes d'autorisation, du coup, il y avait des obligations qui changeaient, peut-être avec les pompiers, les accès.
Alors, je dirais qu'il y a deux choses qui changent. Il y a ce qui est demandé dans les autorisations, mais il y a aussi une autre volonté de ne pas prendre de risques. On est un festival où on veut que le public soit bien, mais soit bien jusqu'au bout. C'est-à-dire que s'il y a un malaise, il faut qu'il soit traité correctement. Et du coup, l'infrastructure qui va autour, on essaye de la mettre en place.
Ok.
Et puis justement, un des objectifs pour cette édition, la prochaine, l'édition 2018, c'est, vu qu'on a eu un peu notre affluence record l'année passée, on va faire particulièrement attention à tout ce qui est optimisation de l'accueil des festivaliers. Cette année, c'est un des objectifs au centre.
Très bien. La quantité resterait plus ou moins là. Pour vous, la réussite du festival serait que vous ayez plus ou moins les 15 000 de l'année passée.
Le nombre de personnes, voilà.
Exactement.
Par rapport en fait au type du public, est-ce qu'il a évolué ou pas?
Ouais.
Je dirais que c'est toujours un festival très familial et on s'est rendu compte que l'accueil des festivaliers et le confort des festivaliers, ça passait aussi par l'accueil des enfants. Et cette année, on a prévu, par exemple, de pouvoir fournir des pamirs, des casques audio
pour les
enfants.
Ouais, génial.
Voilà, donc ça, ce sera au stand information.
Très bien, c'est bien de le dire. Hein. Ouais, ouais. Donc, c'est-à-dire des protections.
Oui, protections pour les oreilles.
Ouais.
Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Aline. C'est vrai que sur le plan purement qualitatif, le type de public qu'on vient, on a vu aussi une diversification. Alors, il y a les familles, effectivement, qui viennent par exemple samedi, un peu plus tôt dans l'après-midi, pour se poser dans l'herbe et tout ça. Mais aussi, on a quand même un public très, très diversifié, en fait. Et je pense que c'est aussi lié en fait au choix de programmation qu'on fait, justement d'avoir une programmation musicale diversifiée avec par exemple cette année rock metal le vendredi et le samedi reggae ska.
Ah ouais, ça dépend.
Donc on essaye quand même d'être on a quand même un public assez diversifié.
On va y venir à la prog, hein, parce qu'effectivement elle est chaude pour le moins. Avant ça, je voulais vous demander si un jour peut-être auriez-vous envie de carrément installer un camping ? La question, c'est est-ce que justement les personnes qui viennent, le public, est-il encore un public local ou vient-il de plus en plus loin ? Et est-ce que justement l'idée d'un camping, mais bon, j'imagine l'infrastructure démentielle que ça doit représenter, mais ça, c'est quelque chose qui habite vos réflexions ?
Je dirais qu'il y a deux aspects, c'est que le public est quand même avant tout encore local. C'est quand même des Mérinois et des Genevois qui viennent au festival. Après, on a des gens qui viennent de très loin. On a eu des Italiens, des Allemands, des Espagnols, des gens qui viennent d'un peu plus loin, mais qui généralement s'organisent aussi pour venir. C'est des gens qui ont l'habitude de se déplacer dans les festivals et qui, sachant qu'il n'y a pas de camping, s'organisent un peu pour pouvoir rester sur place. Nous, on en reçoit pas mal de messages sur Facebook de gens qui demandent où sont les campings les plus proches, etc. Ce qu'on donne comme information. Et du coup, en fait, les gens s'organisent autour de ça pour pouvoir venir au festival.
D'accord.
Après, l'aspect d'avoir un camping, c'est quelque chose qui nous a traversé l'esprit. Mais le fait d'avoir deux soirs qui sont pas dans les mêmes styles fait que finalement peu de festivaliers viennent les deux soirs. On a des publics différents entre un soir et l'autre. Une partie qui reste, mais les gens qui sont susceptibles de venir dans des campings généralement en fait vont ailleurs. Voilà.
D'accord.
Donc pourquoi pas à long terme, mais c'est pas quelque chose qui est là à court terme envisageable de notre côté.
Question quand même obligée, tu l'as dit, c'est beaucoup un public mérinois, mais également genevois. Qu'en est-il des navettes ? Est-ce que vous collaborez par exemple ou collaborez un jour avec Nez Rouge, avec une entité similaire pour, disons, prévenir ce type de choses également ?
Alors pour le transport, en fait, ce qui est super, c'est que vu où on est placé, on a vraiment des arrêts de bus qui sont à deux pas. Et on finit le festival relativement tôt et on est encore dans les horaires des noctambus. Donc pour l'instant, les navettes ne sont pas vraiment d'actualité et vu qu'on favorise la mobilité douce, on ne prépare pas de parking officiel, mais à Mérin, on a une chance, c'est qu'il y a beaucoup de parkings qui se trouvent aux alentours, donc ça c'est très pratique pour les festivaliers. Et par rapport à la collaboration avec une association de prévention pour tout ce qui est consommation d'alcool, on a eu des collaborations qui devraient pouvoir se réitérer ces prochaines années avec des associations pour prévenir, contrôler le taux d'alcoolémie, et puis surtout on a à disposition de l'eau sur le site pour que les gens puissent boire autre chose que de l'alcool. Et puis les Samaritains sont aussi là pour s'il faut encadrer les personnes qui sont un peu en excès.
D'accord, d'accord. Une autre question encore sur ce type de, justement de, d'argument, et puis ensuite on passera à toute autre chose, mais on le sait, hein, là on est dans une période où il se passe beaucoup de choses du côté des violences de genre, des attitudes inadéquates. Ça c'est quelque chose qui est, ça aussi commence à habiter vos réflexions sur justement le fait de dire tiens, comment est-ce qu'on pourrait organiser la sécurité et le confort de toutes et de tous par des safe zones ou des groupes de gens qui sont là en médiation, enfin je sais pas.
Donc tout ce qui est lié à l'encadrement, faire les choses que tout se passe bien en fait avec les festivaliers.
Absolument, concernant là en l'occurrence des violences de genre.
Alors je dirais qu'on a la chance d'avoir deux équipes qui sont présentes sur le site. Par exemple, c'est le GAM. C'est des jeunes de Mérin qui viennent accueillir le public, conseiller s'il y a des questions. Donc il y a ça, mais il y a aussi des travailleurs sociaux. Donc ça, Loïc peut compléter.
Oui, en fait, c'est vrai que toutes les mesures sont pas forcément. Enfin, les mesures dépendent de la taille de l'événement. Et nous, par rapport à la taille de l'événement qu'on a, il y a un certain nombre de mesures qui sont aussi décidées, pas que juste à nos niveaux, mais aussi avec la commune, avec l'état de Genève. Voilà, il y a des réglementations, des mesures qu'on doit respecter. Et c'est vrai que par rapport juste à l'encadrement, on va dire, des festivaliers, on essaie de mettre en place un dispositif intégré où tous les différents partenaires avec des compétences différentes collaborent le mieux possible. Alors, parmi ces partenaires, ces différentes pièces du puzzle, si j'ose dire, outre juste les organisateurs, c'est-à-dire nous, il y a des entreprises de sécurité qui sont là. Il y a les travailleurs sociaux hors mur de Mérin, la police municipale avec justement l'équipe du GAM dont vient de parler Aline. Et cette année, on va aussi essayer de renforcer encore plus cet encadrement avec des partenaires spécifiques qui s'occupent des questions de prévention et de réduction des risques. Mais ça, c'est encore des choses qui sont en discussion, mais qui vont être mises en place pour cette année. Du coup, voilà, c'est en fait, et à cela, on ajoute les Samaritains, les pompiers. Enfin, voilà, c'est un dispositif qui rassemble plusieurs acteurs et on essaye de.
C'est extrêmement intéressant d'entendre toutes ces valeurs qui vous habitent et que vous mettez vraiment en pratique et le fait justement de constamment réfléchir et recalibrer tout ça justement à la vue du confort pour les personnes. Je trouve que c'est un bel effort. Alors justement les TSHM, donc les travailleurs sociaux hors mur de Mérin, ça c'est une collaboration qui s'est installée comment? Vous êtes passé par la phase comment ça a surgi?
Alors, jusqu'à maintenant, c'était en fait les il y a eu une collaboration implicite, si vous voulez. Enfin, ils étaient là, on savait qu'ils étaient là. Mais cette année, c'est vraiment ce qu'on essaie de mettre en place aussi dans une optique de pérennisation du festival. Là, on va vraiment entrer dans une collaboration plus explicite, plus encadrée, définie. Avec du coup, ça, c'est plus quand c'est des choses qui vont se mettre en place cette année. On sera plus apte à répondre
c'est très bien. Je trouve déjà très bien que des TSHM soient présents, des travailleurs sociaux hors mur soient présents lors d'un festival. Alors voilà, on parlait des valeurs, on est un peu là-dedans en ce moment.
Oui.
Y en a-t-il comme ça auxquelles vous tenez particulièrement et que vous avez vraiment envie de mettre en avant typiquement au moment de la com, au moment de la prog? Alors la com pour le public, la prog au moment, on va dire quand même au groupe, sachez quand même les gars que vous venez dans un festival qui a ces valeurs-là. N'oubliez-le pas, on vous demande quand même de réfléchir un peu sur ça. Enfin, voilà, comment est-ce que ça se jauge et comment est-ce que vous procédez?
Alors, le socle de l'Octopod, c'est trois valeurs qui sont les mêmes depuis le début. La première de ces valeurs, c'est la gratuité et l'ouverture. Donc, gratuité, un événement gratuit pour tous et surtout un événement ouvert, pas de barrière et les gens peuvent venir. Ça aide à créer une ambiance conviviale où on se sent bien. ouverture et aussi au niveau des prix. Voilà, comme il me semble Aline l'a mentionné, on pratique des prix accessibles. Mmh. Et pour nous, c'est vraiment central pour en fait avoir un événement où les gens se sentent bien, où ils se sentent trouver leur place et aussi de manière à favoriser aussi une mixité sociale et intergénérationnelle.
Ouais.
Donc ça, c'est la première des valeurs. La deuxième des valeurs, c'est l'ancrage local. Et ça se décline de différentes manières. Il y a déjà le fait qu'on travaille avec des producteurs locaux. Voilà, comme Aline le mentionnait avant, on travaille avec tout ce qui est bière, par exemple, c'est des producteurs locaux. Vin aussi. Il y a plus d'une dizaine de food trucks qui sont là. C'est aussi, on favorise des food trucks locaux. Mm-hmm. Et on travaille aussi avec des artistes locaux. Donc 50% de notre prog sont des groupes locaux. Et ça, c'est un truc qu'on a et qui nous tient vraiment à cœur. Et on travaille aussi avec des artistes qui viennent faire du graff. Depuis maintenant, on a ça depuis plusieurs années, qui viennent faire du graff. Et ça participe vachement à l'ambiance et à l'esthétisme du festival, du coup des graffeurs locaux. Ça, c'est pour la deuxième des valeurs. La troisième des valeurs, c'est la qualité et diversité artistique. Donc comme je le disais avant, depuis le début, on essaie d'avoir une prog diversifiée au niveau des styles musicaux. Là, cette année, ce sera rock et metal le vendredi et reggae ska le samedi. Mm-hmm. Et on essaie vraiment aussi d'avoir une programmation d'envergure. C'est-à-dire que, comme je le disais avant, 50% sont des artistes locaux, mm-hmm. et l'autre 50% sont des artistes de renommée internationale. Et ça, c'est une logique qui nous suit maintenant depuis plusieurs années. On essaye vraiment d'avoir des grosses têtes d'affiche, en fait, de renommée internationale. Du coup, ça, c'est pour tout ce qui est programmation et qualité. Du coup, les trois valeurs au centre, c'est gratuité, ouverture, ancrage local et qualité et diversité.
J'ai bien noté. Ouais, super. Est-ce que... ouais, c'était exhaustif et tout, hein, nickel. Alors, c'est un festival de musique, certainement. Est-ce que, voilà, ça aussi, pour en revenir encore, c'est une question que j'avais oubliée tout à l'heure, qui aurait dû être là un peu avant, mais c'est pas grave. Est-ce que d'avoir d'autres activités, ça fait quelque chose également qui habiterait des projets, des aspirations ? Vous parliez des enfants, voilà, est-ce qu'un jour, peut-être qu'il y aura du maquillage, ou quelques petites choses, ou des stands, ou des petites choses un petit peu autres que la musique, ou vraiment, et c'est pas plus mal, hein, vraiment, de nouveau, vous vous concentrez sur la musique ?
Alors nous, plus particulièrement, on se concentre sur la musique, mais on essaye d'accueillir des gens qui vont avoir d'autres activités. Par exemple, l'année dernière, il me semble, c'était l'année dernière, on avait un stand de massage prix libre qu'on espère pouvoir ajouter. Loïc a parlé du graff, qui est aussi une activité qu'on trouve super sympa, mettre en avant d'autres formes d'art que la musique. Il y a aussi d'autres styles, il n'y a pas seulement de la musique live, il y a aussi des sound systems, donc ça c'est aussi, on peut dire que c'est une autre forme artistique. Et on essaye aussi de mettre en avant des stands artisanaux où des gens peuvent mettre en vente leurs propres produits. Mais nous, personnellement, c'est vrai qu'on essaye sur cet événement de se concentrer sur ce qui est musical.
Ouais, c'est très bien.
Et aussi pour des raisons logistiques, c'est-à-dire qu'on est limité aussi par la taille du terrain, ce qui fait qu'il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas étendre le festival, et du coup on a décidé de se consacrer à...
Oui, et puis vouloir tout faire, c'est peut-être pas non plus la bonne option, d'autant plus que c'est un peu aussi une mode. On voit qu'il y a des gens qui essaient de dire « ouais, on va faire ça, ça, ça ». Au bout du compte, c'est peut-être sympa d'aller au festival de musique pour écouter de la musique, en fait. Pourquoi pas.
C'est une bonne idée.
Le site est-il accessible ? Vous parliez d'inclusivité et de mixité sociale, le site étant totalement ouvert, est-ce que les personnes en fauteuil ou les personnes qui ont des difficultés de mobilité peuvent y accéder facilement ?
C'est prévu. L'année dernière, on a vu des super photos d'une personne en fauteuil roulant pendant un concert de métal portée au-dessus du public. C'était génial. Donc les personnes peuvent totalement venir avec des fauteuils roulants. C'est vrai que s'il pleut, ce sera peut-être plus compliqué.
Ah ouais.
Mais quand le sol est sec, tout va bien, il n'y a aucun problème.
Super.
Et je préciserai aussi qu'on est sur un terrain où il y a des accès bétonnés partout et des chemins qui circulent dans le festival. Donc du coup, normalement, les personnes à mobilité réduite peuvent circuler même en cas de pluie. Ce qui devient compliqué en cas de pluie, c'est surtout l'accès au bar qui est mis dans le terrain. Alors il est très bien drainé, il faudrait un sacré nombre de pluies pour que ce soit pas possible, mais voilà.
Cool, excellent.
On essaye de faire attention à ça.
Excellent.
Et puis, vraiment juste à quoi, 20 mètres de l'entrée d'une des entrées du festival, enfin entrée entre guillemets, parce que c'est pas des vraies entrées, il n'y a pas de rien, mais il y a l'arrêt du 18. Mère village.
Le tram, donc
vraiment, je pense aussi pour les personnes à mobilité réduite, tu descends du tram,
c'est
tu
parfait.
Fais 20 mètres et tu arrives presque dans le festival.
Excellent. On le rappelle, ce sera donc le 24 et 25 août 2018 à Mérin, l'Octopode Festival, la 7e édition de l'Octopode Festival. On va arriver à la programmation. Dernière question juste avant ça. Ça va pour vous ?
Ça va bien.
Non, mais je ne veux pas non plus prendre trop de temps, mais en même temps, c'est important ce que vous dites là, c'est essentiel. Et puis, c'est le travail que vous faites, je veux dire, c'est important que ce travail de l'ombre puisse également surgir et que les personnes qui s'y intéressent puissent entendre votre témoignage d'une certaine manière. Alors, j'aimerais qu'on revienne quand même, parce qu'à chaque fois, c'est de la bombe sur le visuel. Donc on a le logo, hein, c'est l'octopus. Mais cette année, nous avons une mouette qui fait de la plongée. Alors, est-ce à dire que c'est une mouette de bon augure ? Et pourquoi est-ce qu'elle fait de la plongée ? Enfin, d'où est venue cette idée de comment c'est...
En fait, chaque année, notre graphiste, nous propose des visuels. Et là, ça fait plusieurs années qu'on le saoule. Une partie d'entre nous avec « On veut une mouette ». C'était notre lubie parce qu'on avait eu le pirate, on avait eu le marin, la sirène. Donc maintenant, on voulait, dans l'esprit marin, on voulait la mouette. Et je sais pas, quand je crois qu'en réunion, on a parlé d'une mouette qui faisait de la plongée, du masque tuba, et voilà ce qu'on a eu, et on l'adore. On trouve que, en fait, c'est comme si elle regardait depuis en haut le site du festival qui
pas
est
mal.
Au fond de l'océan.
Ouais, elle redécouvre un Atlantide comme ça, éphémère. Non, mais parce que c'est vrai qu'il est chouette. Ça vous a tout de suite un peu compliqué, parce qu'on sait que les visuels, c'est compliqué. Quand on est des assos et que donc du coup on fonctionne quand même en horizontalité la plupart du temps, bah voilà, tout le monde dit un peu la sienne et puis c'est compliqué de trouver un consensus. Là, c'est allé assez vite ou bien ?
Ça a été le coup de cœur total.
Ça a été le coup de cœur pour tout le monde. Ouais. Bon, bah génial.
Je pense qu'il faut aussi ajouter qu'il y a une confiance entre les gens dans l'association liée aussi à cette horizontalité qui fait que quand Noé nous propose quelque chose et qu'il y tient à cœur, et ben nous on a aussi la confiance qui va derrière pour dire ouais, elle est chouette.
Ouais. Avant qu'on passe stricto sensu à la programmation, j'aurais envie de vous demander à chacune et à chacun de vous, ça va encore, vous me dites hein, si en termes de timing.
Totalement, il n'y a aucun problème.
On a le temps. Hein.
Okay. On a le temps,
on est absolument pas pressé.
Bon, il faut quand même que je regarde dans mon dos parce qu'il y a des techniciennes qui vont. Si je dépasse trop, ça va être chaud pour mes. Pour... Voilà. C'est bon, elle n'a pas entendu. Ah, si, alors. Non, c'est pas. Alors, voilà, j'aurais voulu savoir, de la part de chacune et chacun de vous, une petite anecdote. Sur ces dernières éditions, un truc qui vous a particulièrement plu, enchanté, et puis un truc qui vous a un petit peu moins plu, sans que ce soit à la cata, mais en disant « ouais, ça, on fera différemment la prochaine fois ». C'est un machin qui émerge. S'il n'y a rien qui vient, il n'y a rien qui vient. Mais voilà, juste pour l'anecdote, c'est sympa de savoir qu'une équipe d'orga, eh ben, elle connaît aussi des petites crises, des crisettes, et puis qu'elle connaît surtout des moments éclatants, quoi. Alors, je sais pas si quelqu'un a en tête quelque chose.
Moi, j'ai une idée perso.
Ah, vas-y.
On a un rituel maintenant, c'est en fin de soirée. En fin de soirée, les 15 dernières minutes du dernier concert, on les passe tous ensemble, donc toute l'équipe organisatrice, à regarder l'écran. Enfin, l'écran. Non, on n'a pas d'écran, qu'est-ce que je raconte ? La scène, on dirait que c'est irréel, donc c'est presque un écran. Mais on regarde donc la scène et on profite ensemble des 15 dernières minutes de concert. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui nous permet de voir ce qu'on a réussi à faire et être tous ensemble, parce que pendant le festival, on est chacun dans notre coin et là, on se retrouve.
C'est quelque chose qu'on ne prenait pas le temps de faire les autres éditions et du coup, c'est vraiment le moment où on peut se dire, voilà, on est content de nous et on a fait ça et c'est chouette.
Super, ok.
Sinon, j'ai un moment de crise, je dirais le pire moment pour moi de l'année, c'est le dimanche matin.
C'est une crise totale.
C'est vraiment le pire moment parce que c'est le moment donné.
Et puis il n'y a plus rien.
Enfin, il faut, comment dire, on a un jour pour tout démonter. Et on est fatigué parce que ça redescend après, enfin, on se donne à fond toute l'année, mais en particulier toute cette semaine de montage, pendant les deux soirs de festival. Et le dimanche matin, souvent on dort pas beaucoup, c'est vraiment le pire. c'est une spécificité matin de, la, de l'année. Ça, c'est vraiment.
J'imagine.
Et ça, c'est chaque année. Hein, ça.
Et pour tout le monde, je pense.
Ouais,
c'est
ouais,
une constante.
Ouais.
Enfin, c'est une des spécificités du festival, c'est qu'on a 4-5 jours pour le monter et on a une seule journée pour le démonter.
Ah.
Du coup, c'est vrai que le dimanche, c'est une grosse journée. C'est pas fini, en fait, le samedi soir.
Ok. Il se trouve que le reste de l'année, vous avez des activités des vôtres, vous faites quand même, vous préparez déjà l'Octopod de l'année d'après, mais il y a des moments où vous voyez un petit peu pour voilà, débriefer un peu le truc et puis se dire c'était bien, on peut refaire ça différemment, toutes ces choses-là. Le moment de débrief, c'est quand c'est tout de suite après le festival où vous intériorisez un peu les trucs et vous y revenez un petit peu plus tard. Comment ça se passe?
Moi, je dirais qu'il y a deux étapes qui se passent majeures. Il y a d'abord l'après-festival où tout le monde est fatigué, on essaie de faire un moment sans réunion aussi.
Ouais, ouais, tout à fait. Ça, c'est important, la pause.
Effectivement, intérioriser l'événement, le digérer et tout ça. Et après, on se fait que des réunions de débriefing assez rapprochées. Généralement, on doit en faire 3 pour passer tout l'événement. Ça, c'est le premier temps. Et puis, le deuxième temps, c'est quand on organise le suivant, se rappeler justement de ces moments de débriefing où il y avait ça qui jouait pas, il y avait ça qui jouait pas. Et repartir sur des choses un peu plus saines pour l'année d'après.
Ok, ça marche. Alors, à moins que des questions surgissent, t'as un rouge à lèvres, Camille, fantastique. Un violet à lèvres, fantastique. Alors, si aucune question ne surgit, eh bien, nous allons parler de la programmation, si ça vous va. Alors, 24 et 25 août 2018, l'Octopod Festival à Meyrin, www.octopod.ch. Déjà, le vendredi et le samedi, il y a la Rosalie, quoi. Alors ça, franchement, c'est de la bombe. Mais il faut que vous disiez, moi, je suis aux grottes. À chaque fois que je sors de chez moi, je vois Rosalie. Il faut que vous disiez, qu'est-ce que c'est? Qui est Rosalie, le bleu?
Alors, Rosalie, c'est avant tout des copains, je pense. Non, c'est l'association Basement, avec qui on collabore depuis le départ, bien avant les éditions de l'Octopod, d'ailleurs, sur plein d'autres événements avant. Qui ont monté un projet d'une voiture à pédales avec un simple système dessus, qu'ils ont construit eux-mêmes, et qui viennent animer du coup les débuts et les fins de soirée à l'Octopod.
Ça va être génial, voilà. Ça. Alors il va y avoir 3 passages.
3 passages, ouais.
16h30, 18h et 1h15 du mat.
Pour
il va
le
falloir
vendredi.
Leur faire un test, tu sais.
Non, ça va. Non, ils sont sérieux.
Non, bien sûr, je m'excuse, Rosalie. Samedi 25 août, également la Rosalie, 16h et 1h10 de Bleuet. Ils entrent et ils sortent. Hein, les... Ok, alors ça c'était pour dire, voilà, il y a la Rosalie. Et ils profitent entre eux. Alors justement, de quoi vont-ils profiter vendredi 24 août Manu, à toi la parole.
Du coup, on a 2 soirs, donc comme l'a dit Loïc, un soir rock metal et un soir reggae ska.
Mm-hmm.
Cette année, on a essayé d'ouvrir un peu dans les styles de metal par rapport à l'année passée, où notre tête d'affiche c'est NZ Ferrum, c'est du folk metal, donc quelque chose de très accessible pour le milieu.
Mm-hmm.
Voilà, relativement dansant avec pas mal de mélodies, avec pas mal de choses écoutables, dirons-nous, pour les non habitués au style. Après, on a Samael, un groupe suisse qui refait son retour sur scène. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas tourné par chez nous. Du coup, on a une exclusivité sur l'été en Suisse, donc on aura le plaisir de les accueillir. Et puis Acme, qui est un groupe metal alternatif français. Qui est très connu de la scène metal parce que ça fait très longtemps qu'ils jouent et qu'ils ont fait énormément de concerts avec beaucoup d'artistes, ils ont pas mal de morceaux à défendre et voilà, on a les chances de les avoir cette année. Et puis après, en plus local, France voisine, on a Smash It Combo, qui est un groupe avec des gens de notre âge, à peu près la trentaine, et qui ont un des lives en tout cas qui a le plus touché le comité ces derniers temps. C'est une énergie incroyable sur scène, c'est des jeunes musiciens qui jouent extrêmement bien, et du coup voilà, je pense que ça va être une grosse baffe. Et puis sur le plan de la grosse baffe, il y aura Bac 13 après, qui voilà, qui est plus à présenter sur la scène genevoise, je pense, qu'on est très content d'accueillir avec tous leurs lasers et leurs light show. Du coup voilà. Et puis après, on a 2 groupes qui sont un peu moins metal, mm-hmm. qui sont un peu plus influencés par le rock et le hard rock et tous ces styles là. On a Killing Volt qui a un nouvel album à défendre cette année, et puis Mod Cats qui a aussi un nouvel album à défendre cette année. C'est quelque chose auquel on essaie d'être attentif, c'est qu'est-ce que les artistes ont à présenter en ce moment. Est-ce qu'ils ont des sorties, est-ce qu'ils n'ont pas de sorties, est-ce qu'ils ont d'autres concerts, pas d'autres concerts. Et du coup, ça nous semblait être 2 groupes genevois intéressants à proposer à notre public.
Absolument. Alors juste pour...
Oui.
Comment cette... Alors,
on a bien compris le sens, hein, rock et metal, avec voilà des... Comment les décisions ont-elles été prises? Est-ce que c'est toi quand même plus qui va, comment dire, sanctionner les décisions, enfin, est-ce que les gens amènent des idées? Est-ce que tout d'un coup Aline, toi tu dis ouais mais moi Bac 13 je rêve de les voir depuis une éternité, comment ça se passe?
Ah oui, Bac 13. Non, alors ce qui se passe c'est que généralement on commence à parler déjà de la prochaine édition en septembre après l'édition l'Octopode et on a des idées de groupes qui nous trottent dans la tête depuis plusieurs années, qu'on garde dans la poche et on se dit ah mais l'année prochaine serait cool d'avoir bah, par exemple Samel, Bac 13, des choses comme ça. Et Manu nous fait des propositions, parce qu'il a des idées, il a vu des concerts. Aussi nous pendant l'année on va écouter des concerts et on se dit ah mais eux il les faut à l'Octopode. Bah, par exemple Smash It Combo, comme disait Manu, c'est un groupe où on a été totalement éblouis pendant le concert. Et c'est toujours un vote. Manu va jamais prendre une décision sans nous. S'il n'y a pas de réunion prévue, c'est par téléphone, un petit WhatsApp, un petit Telegram, et puis on prend les décisions ensemble. Et ça c'est super parce qu'on se réjouit tous en fait au final. C'est notre programmation.
Je dirais que la programmation au sein de Subsession, c'est un dialogue entre les gens, entre nos goûts d'une part, mais aussi entre qu'est-ce que notre public a envie de voir, ce qui est je pense très important quand on a un rôle de programmateur, c'est pas forcément ce qui nous plaît, c'est aussi ce qui plaît aux gens. Et puis après, aussi la question de la notoriété et des sorties qui vont avec. Et du coup, quand je dis dialogue, c'est les gens amènent des propositions, moi aussi j'en amène pas mal. Et après, il y a tout le boulot qu'il y a derrière, c'est-à-dire contacter les artistes, négocier. Après, il y a Loïc qui intervient pour la signature des contrats, etc., etc., l'accueil des artistes. Et du coup, c'est un dialogue entre toutes les personnes de l'association qui vont un peu définir les lignes directrices.
J'ai compris.
Puis après, il y a aussi les contraintes des groupes pas disponibles qu'on aura envie de voir, les cachettes relevées, pas possible de les accueillir sur notre site. Enfin, voilà.
Il y a des contingences habituelles, enfin normales, j'ai envie de dire. D'accord.
Tout à fait.
Cette idée de thématiser les soirées, ça c'est présent depuis tout le temps ou c'est quelque chose de relativement nouveau également?
Les premières éditions, le but c'était de mélanger les styles dans une même soirée. Mmh. Donc on a eu deux premières éditions, c'était pas très très clair. Il y avait un peu des styles voilà, dans tous les genres. Puis au fur et à mesure des années, on s'est dit mais pourquoi pas cibler, faire deux soirs différents, mais essayer de cibler un peu dans une même tranche.
D'accord.
Du coup, on n'est pas figé dans un soir metal puis un soir reggae par exemple. On essaye juste de faire des styles qui vont ensemble le vendredi puis qui vont ensemble le samedi et qui se marchent pas dessus surtout entre les deux jours. D'où voilà la direction de cette année. Mais c'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. L'année prochaine, c'est pas dit qu'on refasse quelque chose comme ça.
Et ça également, cette thématisation, elle se fait de manière collective. On donne une idée. Cette année, j'aurais envie d'un truc un peu surf ou plus ska ou plus tout ça. Ça aussi, ça se fait en commun.
Oui.
D'accord. Est-ce qu'il y a des fois où vous vous dites, tiens, cette année, on va faire un truc un peu dément, genre un soir, ce sera de la musique classique?
C'est encore jamais arrivé pour le moment, mais c'est vrai que voilà, chaque année quand on commence à avoir les premières discussions sur la prochaine édition, on se pose la question des styles, est-ce qu'on reste sur ça, est-ce qu'on ouvre un peu plus,
Donc c'est des discussions ouvertes à chaque fois, donc chaque année ouvert. Ça peut être n'importe quoi, entre guillemets, ouais. Pourrait émerger.
C'est vrai, oui, c'est ça. Et il y a aussi le fait que bah, c'est des discussions qui évoluent au cours de l'année, parce que comme vient de le dire Manu, il y a des contraintes qui ne sont pas dépendantes de nous.
Bien sûr.
Et du coup aussi, c'est aussi l'idée de voir quels sont les... Si on a une occasion qui se présente particulière, un groupe particulier, on se pose la question, est-ce qu'on bouge un peu de style, ouais. Enfin, ouais. Du coup, ça se construit et ça évolue aussi au fil de l'année.
Excellent. Samedi 25 août. Alors, Rosalie, de nouveau à 16h pour lancer les affaires. Et ensuite...
Et ensuite, on aura en tête d'affiche, on aura la chance d'accueillir Alborosi et son backing band, le Schengen Clan. Donc Alborosi, qui est un artiste reggae New Roots, qui vient d'Italie, mais qui est principalement actif en Jamaïque aussi et qui tourne énormément, qui est une des plus grosses prods actuellement qui tourne sur scène. Donc c'est pour nous aussi un défi de l'accueillir, je pense, parce que voilà, c'est très gros en termes d'infrastructure. Après, voilà, on se réjouit de voir ce qu'il va faire sur scène. On aura les Scatalites qui sont plus à présenter. Hein, ça fait un moment qui tourne.
Ouais, carrément.
À un moment donné, voilà, qui tourne sur scène. Enfin, 1964, c'est pas tout proche comme année. Du coup, ils vont venir nous jouer leur hit Ska Rocksteady.
Double.
Voilà. Après, on aura Max Livio, donc ça, c'est encore un autre style, une autre tranche du reggae. C'est plutôt du reggae français et francophone même, plus que français. Max Livio, qui est un chanteur qui a une super voix, c'est ça qui nous a touché chez lui. C'est vraiment un très bon chanteur et qui défend la francophonie aussi dans ses chansons, ce qui, pour nous, voilà, ça nous a touché. Et puis sur la petite scène, on aura des groupes qui font un peu écho, dans le sens où on a Basement Roots, qui est un groupe suisse de reggae, vraiment de reggae, qui vient de Lucerne. C'est la première fois qu'on accueille un jeune groupe qui vient pas de Genève.
Ouais.
Du coup voilà, ce sera une première expérience pour nous. On a Roy Ellis qui est un chanteur de ska très affilié au mouvement skinhead, voilà, Rocksteady, etc. qui sera backé par Cosmic Shufflin, qui est un groupe genevois. Qui a joué l'année passée leur composition et leur chanson, et qui cette année viennent faire le backing band pour Roy Ellis. Et puis on aura Kalakuti Orchestra, où là on a essayé de changer un peu d'optique et de terminer la soirée du samedi sur la petite scène avec quelque chose de beaucoup plus dansant, afrobeat, world techno. Voilà. Et du coup, on se réjouit de voir la réaction du public à ça.
Waouh, quand même, hein, c'est franchement une belle programmation. Vous avez vous l'avez révélé cette semaine, hein,
le 7 juin.
Le 7 juin.
Voilà, le 7 juin. Vous avez donc via les réseaux sociaux, tout ça, comme tu l'as dit Aline tout à l'heure, y a-t-il eu d'ores et déjà des réactions, des gens qui ont dit franchement pas mal?
Oui, et puis en fait on était super contents parce qu'il y a eu des bonnes réactions, mais il y a eu aussi des réactions de personnes qui aimaient autant le vendredi et le samedi. Par exemple, Sensiferum et Scatalites. Et c'était cool parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on arrivait à toucher des personnes pour les deux soirées. Et ça c'était peut-être une nouveauté, ou en tout cas les gens s'étaient plus exprimés dans ce sens-là, donc c'était super cool.
On commence à ressentir le public qui a envie de venir à l'Octopode, pas seolement envie de voir tel ou tel groupe, qui viennent aussi parce que c'est l'ambiance, et ça c'est un très très beau retour pour nous.
C'est le meilleur des cadeaux ça, mais c'est vrai, en tout cas moi personnellement les deux soirées en tant que telles sont extrêmement alléchantes, alors qu'elles sont quand même effectivement assez différentes, mais en même temps elles donnent vraiment envie quoi, enfin je trouve que c'est bien foutu tout ça. On le rappelle, tout ça c'est pour une entrée libre, pour une entrée gratuite. Alors, qu'est-ce qui peut arriver de funeste pour le festival? C'est qu'il pleuve, ou même ça, c'est gérable et géré?
C'est tout à fait gérable, parce qu'on a la chance d'avoir une grande scène couverte, donc on peut tout à fait profiter des concerts même s'il pleut. Et on a aussi un espace public pour le public qui est couvert, où les gens peuvent manger, boire, se désaltérer, tout ça, donc sous un chapiteau. Donc ça veut dire que finalement rien ne peut nous arriver, et peut-être un tremblement de terre, sinon tout va bien.
Excellent. Vous attendez à quoi pour cette année? Vous êtes comme ça, je pense que vous sentez quand même les choses arriver via justement peut-être des messages, les réseaux sociaux, les attitudes ou ce que vous disent les gens autour de vous. Vous la voyez comment cette édition?
Super grande fête.
Ouais. Hein.
Avec beaucoup de bonheur.
Ouais, absolument. Et puis un visuel comme ça, franchement, ça ne peut que donner envie également de s'y intéresser. Ok, écoutez, on arrive doucement à la fin de cet entretien. J'ai envie de nouveau de me tourner vers les personnes de chez nous si une question émerge ou non. Y a-t-il pour vous une question que j'aurais oublié de vous poser, à laquelle vous auriez souhaité répondre? Vous pouvez y penser un petit moment.
La dernière chose, c'est comment dire, c'est je l'ai pas cité tout à l'heure, mais c'est aussi une des valeurs, ou disons plutôt pas forcément une valeur, mais un des éléments clés du festival sans lesquels il ne pourrait pas fonctionner, c'est le bénévolat.
Et, mention spéciale pour tous les bénévoles, bien entendu.
Le comité d'organisation, on est tous bénévoles, et ça ne changera pas. C'est dans cet esprit qu'on fait le festival.
D'accord.
Mais surtout, tout simplement, toutes les personnes en fait, qui reviennent chaque année, sans faire partie du comité d'organisation, mais qui viennent chaque année mettre la main à l'ouvrage. Et maintenant, on a une centaine de bénévoles qui revient chaque année.
Centaine de bénévoles.
Voilà, qui revient chaque année et qui nous aide. Et on pourrait juste, que ce soit du montage jusqu'au moment même de la soirée ou au démontage, on pourrait juste rien faire si on était juste le comité d'organisation. Et ça, spéciale mention, spécial merci à tous ces bénévoles qui reviennent, quoi.
Et si les personnes ont envie de rejoindre donc cette équipe bénévole, l'Octocrew, les inscriptions sont ouvertes sur le site du festival, sur le site internet.
Y a-t-il des ressources pour lesquelles vous êtes encore... Cherchez-vous encore certaines ressources?
cherche des gens encore, voilà. Des bénévoles de manière générale, ouais. pour participer à l'expérience de l'Octopode.
Super. Bon, bah, je vous remercie en tout cas beaucoup, beaucoup. Je me demandais encore, je vous posais une question qui pourrait être peut-être une idée pour vous, mais... y a-t-il une archive du festival sur le site, j'imagine, Internet ?
Oui, oui.
Mais par exemple, y a-t-il par exemple une compilation de quelques chansons de quelques-uns des groupes qui pourrait être en même temps cette compile de soutien pour l'année d'après, que vous vendiez à prix libre ou quoi, mais qui serait également un souvenir fantastique pour tout le monde, et également un produit d'appel en disant « Nom de Bleu, ils ont fait, il y a du son là-bas ».
Oui, alors on réfléchit pas mal à ce qu'on pourrait offrir à notre public pour avoir un petit souvenir pendant toute l'année. Pour l'instant, on n'est pas encore sur de la musique. On est en train de prévoir un stand merchandising un peu plus dense cette année, avec des produits qu'on ne proposait pas les autres années. En plus des t-shirts, on va avoir plein de petites folies. C'est des petites surprises que les personnes pourront trouver pendant l'Octo.
Alors, on trouvera ces surprises le 24 et 25 août 2018 lors de l'Octopode Festival, un open air gratuit qui se situe à Mérin. Quels sont les bus et les trams qui y mènent le 18,
le 14 et le 57.
Très bien. Je vous remercie beaucoup d'être venu jusqu'à nous. Aline, merci. Manu, beaucoup. Merci beaucoup, Manu. Loïc, merci à toi.
Merci à toi.
Courage pour la suite des événements. Merci. Et puis, on va de toute façon se tenir au courant et se retrouver par-ci ou par là. Merci, les gars.
Merci.
Ciao.